Tome 2, chapitre 11. Difficulté. Avant de quitter la ville, le docteur alla dans Berkeley Square. Il trouva Lady Delacour hors de tout danger pour le moment. Belinda s'affligea cependant de son absence, mais elle était indispensable. Le docteur était demandé pour soigner son intime ami, M. Horton, homme rempli de mérites, de connaissances et de talents, et qui avait gagné une fièvre violente en exerçant son active charité envers les pauvres paysans de son voisinage. Lady Delacour, entendant le docteur annoncer son départ, ouvrit son rideau en lui disant « Vous savez que je peux mourir d'ici à peu de temps. Mais mon intérêt peut-il entrer en balance avec celui de votre excellent ami? Il est utile au monde, moi je ne suis bonne à rien. Partez donc vite. Adieu, cher docteur. » Quel dommage, dit le docteur lorsqu'il eut quitté la chambre de la malade, qu'une femme capable d'un si noble courage ait sacrifié sa vie à la frivolité. Espérez-vous lui conserver la vie? Demanda Belinda. Le docteur secoua la tête et remit un papier à Belinda en lui disant qu'elle y trouverait son opinion sur son ami. Belinda courut s'enfermer dans sa chambre pour lire l'écrit du docteur X. Il assurait qu'avec des palliatifs, Lady Delacour pourrait prolonger ses jours d'une année ou deux, qu'il croyait possible à un habile chirurgien de lui sauver la vie, que, d'après la courte conversation qu'il avait eue avec elle, il voyait qu'elle se déciderait à une opération, que c'était un parti dangereux à prendre, même en s'en rapportant au plus célèbre opérateur, mais que si, par un vain désir de mieux cacher son secret, elle se confiait aux mains d'un ignorant, sa perte était certaine. Belinda, après cette lecture, balança si elle en ferait part à son amie. Mais elle se détermina à attendre le retour du docteur, espérant que Lady Delacour n'aurait jamais la pensée d'avoir recours à un charlatan. Le lendemain, Lord Delacour, à son réveil, n'avait qu'une idée confuse de ce qui s'était passé dans la nuit. Il fit cependant de gauches excuses à Miss Portman sur la violence de ses manières, en accusant l'admirable Bourgogne de Lord Studley. Il témoigna beaucoup de peine du terrible accident arrivé à sa femme, se plaignant de l'entêtement qu'elle avait eu, en ne suivant pas ses avis et en se servant de jeunes chevaux. Je ne sais comment elle les a eus, ni comment elle les a payés, ajouta-t-il, car je ne veux point me mêler de ses affaires, je l'ai bien résolu. Lord Delacour termina sa visite à Belinda en lui disant que le séjour de sa maison ne pouvait plus lui convenir, que l'emploi de garde-malade n'était pas fait pour une aussi jeune et aussi belle personne, mais que la bonté rare avec laquelle elle s'en acquittait prouvait l'excellence de son cœur. La manière dont il parla à Belinda la convainquit que, malgré sa brusquerie, il aimait sa femme, mais que la crainte seule d'être ou de paraître gouvernée par elle l'empêchait de lui témoigner ses sentiments. Elle lui trouva plus de bon sens et crut son caractère plus aimable qu'elle ne s'y attendait, d'après ce que lui en avait dit Lady Delacour. Les réflexions de Belinda sur le malheur des unions mal assorties ne furent pas en faveur du mariage en général. Elle était convaincue que les mariages d'intérêt, de convenance et d'ambition ne pouvaient donner le bonheur. Depuis son enfance, elle n'avait point vu d'exemple d'intérieur heureux. Le docteur X lui avait bien vanté celui de Lady Anne Percival, mais elle craignait que cet homme d'une vertu et d'un génie supérieur ne crût trouver trop aisément ce qu'il désirait, c'est-à-dire de voir réaliser le rêve de son cœur. M. Hervé était le seul homme qu'elle avait cru capable de faire le bonheur d'une femme raisonnable. Mais elle sentait que son esprit, sa tournure, ses manières et son caractère ne lui inspiraient plus qu'une froide estime. Lady Delacour voulait lui persuader qu'elle aimait. Quoique Belinda ne la crût pas, elle éprouva un vif regret d'être privée de ses conseils et d'être, par sa maladie, livrée à elle-même. Elle résolut de veiller sur ses moindres actions afin d'éviter tout reproche. Elle voulut s'examiner elle-même avec impartialité. Elle fut interrompue dans cet examen par M. Hervé, qui vint lui demander des nouvelles de son ami. Il se plaignit d'avoir été assez indiscret pour pénétrer dans le cabinet de toilette de Milady. Il parlait avec feu, mais quand ce sujet de conversation fut épuisé, il devint plus timide et plus réservé. Il aurait voulu parler de son estime, de son admiration, demander grâce pour ses injustes soupçons. Mais il eût été absurde à un homme qui n'avait jamais parlé de son amour d'avouer sa jalousie. Clarence ne manquait ni d'esprit ni d'adresse, mais un petit événement le jeta dans une extrême confusion. Bélinde voulait avoir l'adresse du docteur X, elle la lui demanda. Il l'écrivit sur le dos d'une lettre qu'il tira de sa poche, mais en voulant la déchirer, il laissa tomber une mèche de cheveux qu'elle renfermait. Bélinde fut frappée de leur beauté, de leur couleur et de leur extraordinaire longueur. L'embarras marqué de Clarence ne put lui laisser douter qu'il n'appartinsse à une personne à laquelle il s'intéressait, et elle crut lire dans ses yeux tout ce qui se passait dans son cœur. Elle se loua de n'avoir montré aucune émotion à la vue de ses beaux cheveux. « Quel bonheur pour moi, se dit-elle à elle-même, de découvrir qu'il a un attachement pendant que je suis encore maîtresse de mon cœur. Je ne dois plus l'écouter que comme un homme aimable. Mais je suis ravie que Lady de la Cour n'ait pas été ici dans ce moment. Elle aurait plaisanté et m'aurait embarrassée. » Cependant, Bélinde ne pouvait se dissimuler que Clarence avait paru jaloux de gagner au moins son amitié. Elle crut donc plus convenable de ne plus recevoir ses visites pendant la maladie de Lady de la Cour. Elle fit défendre sa porte. Mais cette précaution fut inutile, car M. Hervé ne parut plus et se contenta chaque jour d'envoyer savoir des nouvelles de Lady de la Cour, qui garda sa chambre 10 jours et souffrit cette retraite avec autant d'ennui et d'impatience qu'elle supportait ses maux avec douceur et courage. Un matin, en regardant la liste de ceux qui s'étaient fait écrire chez elle, elle dit à Bélinde « Tout ce monde m'oubliera bientôt si je continue à ne pas me montrer. Je veux rouvrir ma porte et recevoir toutes mes connaissances. Lorsque je me sentirai fatiguée, je me retirerai et mon ami me remplacera. Allez au piano, je voudrais entendre de la musique. Dieu veuille que bientôt mon salon soit rempli. » Jamais le docteur Zimmermann n'aurait eu ma confiance. Il conseille la solitude, et pour moi, tout est préférable au silence de la retraite. De grâce, continua-t-elle en s'adressant à Mariette, qui entrait doucement, ne marchez plus sur la pointe du pied. Chacun ici se glisse autour de moi, et je me crois déjà au milieu des ombres. J'aimerais mieux être étourdie par le grand bruit que d'entendre Mariette ouvrir doucement ce boudoir. Mariette remarqua que Milady était la seule malade qui trouva mauvais qu'on ne lui fît pas de bruit. « Le seul bruit qui m'incommode, Mariette, est celui que fait votre odieux perroquet. » Mariette aimait cet oiseau comme s'il eût été son enfant. « Oh Dieu ! » s'écria-t-elle, « mon pauvre perroquet ! Oh Dieu ! Je ne m'attendais pas à cela ! Je ne le mérite pas ! Je suis sûre de n'avoir rien fait pour m'attirer une pareille disgrâce de Milady. » Alors elle fondit en larmes. Mais ma chère Mariette, lui dit Lady de la Cour, j'ai souvent entendu dire qui m'aime, aime mon chien. Mais jamais qui m'aime, aime mon perroquet. Pourquoi donc vous chagrinez? Qu'en dites-vous, Miss Portman? Mariette se retourna, regardant Bélinde fièrement. Elle quitta la chambre en disant je vois qui je dois remercier. Et elle ferma la porte aussi fort que Lady de la Cour pouvait le désirer. Elle boudera pendant 3 jours, dit Lady de la Cour, mais elle me servira avec le même zèle. En effet, Mariette reparut avec l'air fort grognon. Elle garda un profond silence qui n'était interrompu que par des soupirs qui semblaient dire « Voyez comme je suis attachée à madame, et cependant elle hait mon oiseau. » Lady de la Cour, qui comprenait la force de ce langage muet, ne parla plus du perroquet, espérant être distraite de ses cris perçants par le bruit plus agréable du monde qu'elle allait recevoir. Dès qu'on sut que la maison de Lady de la Cour allait être ouverte et qu'elle donnerait, comme de coutume, des bals et des concerts, une foule d'amis vinrent la complimenter et s'empresser autour d'elle. Lady de la Cour se rit de toutes leurs félicitations. Elle aimait le monde, et cependant, elle le connaissait. « Pour Clarence Hervé, dit-elle, je le distingue. Je suis persuadée qu'il a pris un intérêt réel à moi. Mais, Belinda, ce n'est pas une idée de ma part. Il est fort changé. Il est devenu pâle, maigre et sérieux, pour ne pas dire mélancolique. Dites-moi, qu'avez-vous fait de lui pendant ma retraite ?
Rien, je ne l'ai point vu.
Non ? Ah, je ne suis plus étonnée. Il est au désespoir d'avoir été banni de votre divine présence.
C'est plutôt l'inquiétude que vous lui avez causée, répondit Belinda.
J'en saurai la cause, reprit Lady de la Cour. Mon adresse est égale à ma curiosité, et c'est beaucoup dire. Malgré cette confiance, Lady de la Cour ne put pénétrer le secret de Clarence, et elle se persuada qu'il n'en avait pas, surtout quand elle lui vit avec elle toujours la même gaieté. Elle parut, de son côté, prendre part à tous les plaisirs qui l'entouraient. Mais Belinda s'aperçut bien qu'elle était profondément alarmée sur sa santé. Elle ne paraissait au milieu de ces nombreuses assemblées que pendant quelques minutes. Elle traversait son salon, se plaignait d'un mal de tête, de nerfs, se retirait en laissant Belinda faire les honneurs de sa maison. Miss Portman se trouvait dans la position la plus difficile. Elle avait besoin d'avoir recours à la plus extraordinaire prudence. Tout ce qu'il y avait de jeunes gens à la mode à Londres était continuellement chez les dés de la cour. Ils regardaient la jeune nièce de Mistress Stanhope comme une proie qui devait leur appartenir, tandis que toutes les femmes, en affectant de mépriser ses charmes, réunissaient contre elle toute leur jalousie. Elle était sans cesse exposée aux traits dangereux de l'envie et de la flatterie. Elle n'avait point d'amis, point de guide et à peine un protecteur. Sa tante lui écrivait souvent, mais ses conseils n'étaient pas toujours d'accord avec les sentiments et les principes de Belinda. Elle ne pouvait se fier pour sa conduite à Lady de la Cour. Elle était loin de se reposer sur ses propres forces. Elle se sentait trop de facilité dans le caractère et craignait de se laisser entraîner dans les folies que l'exemple de Lady de la Cour lui avait apprises à mépriser. La prudence de Belinda sembla augmenter avec la nécessité. Chez elle, ce n'était point une vertu de calcul, elle suivait l'impulsion de son cœur et la justesse de son esprit. Elle savait être aimable, mais toujours modeste et réservée. Ce qui l'embarrassait davantage était sa conduite avec Clarence. Il paraissait triste et malheureux quand elle le traitait purement comme une simple connaissance, et elle sentait le danger de l'admettre à la familiarité de l'amitié. En pensant à la boucle de cheveux, elle se promettait de regarder Clarence comme un homme marié. Mais en le voyant suivre avec tant d'intérêt chacun de ses mouvements, et veiller sur elle comme si son sort dépendait de sa conduite, elle se disait « Peut-être il m'aime ». Il paraissait vouloir cacher ses sentiments à tous les yeux, chaque jour sa manière avec elle devenait plus respectueuse, mais plus contrainte. Se ressouvenant de sa réputation de galanterie, elle croyait qu'il voulait seulement, par vanité, la mettre au nombre de ses conquêtes. Alors l'indignation la transportait. Mais ce qu'elle pensait le plus constamment, c'est qu'il était lié par un premier engagement que l'honneur l'empêchait de rompre. Et alors, il était digne de son estime et de sa pitié. Ce fut alors que Sir Philip Baddeley commença à lui faire la cour. Il avait remarqué les sentiments de M. Hervé pour elle. Il voulut être son rival et affecta de parler à ses amis de Belinda Portman avec ravissement. Rochefort, dit un jour Sir Philip, le diable m'emporte si je ne suis pas fou de Belinda. Clarence me maudira, mais peu m'importe, malheur à lui.
Sur mon honneur, répondit Rochefort, tu feras bien. Clarence mérite que tu lui joues ce tour. Il faut parler de sa flamme de Windsor, mais comme d'un grand secret.
Pendant que Sir Philip Baddeley et M. Rochefort avaient été liés avec Clarence, ils avaient remarqué qu'il allait très fréquemment à Windsor. Ils imaginèrent qu'il avait une maîtresse. Curieux de la voir sans le dire à Clarence, ils en cherchèrent les moyens. Enfin, un soir qu'ils étaient sûrs qu'il n'était pas à Windsor, ils escaladèrent le mur du jardin de la maison qu'ils fréquentaient et ils aperçurent une jeune fille charmante qui se promenait avec une dame qui paraissait être sa gouvernante. Ils se gardèrent bien de parler de leur aventure, sachant que Clarence leur demanderait raison de leur curiosité. Ils résolurent cependant de profiter de ce qu'ils avaient découvert à son insu pour lui nuire dans l'esprit de Lady de la Cour et de Miss Portman.
mais ils se promirent d'agir toujours avec un grand mystère. Sir Philip répéta donc souvent devant elle que Clarence se connaissait parfaitement bien en beauté, qu'il ne se contentait pas d'une seule, qu'il voulait réunir la mode à l'esprit et l'élégance à la beauté. En faisant ces observations, ils se regardaient l'un et l'autre d'une manière significative. Belinda les écouta en gardant un pénible silence. Mais Lady de la Cour voulut avoir une plus entière explication. Sir Philip et Rochefort s'y refusèrent afin d'exciter davantage sa curiosité. Voyant la réserve de Miss Portman avec Clarence, ils espérèrent pouvoir le supplanter sans le trahir. Les visites de M. Hervé devinrent plus éloignées, celles de Sir Philip plus fréquentes. Miss Portman, cependant, ne lui parlait jamais que de choses indifférentes. Un matin, se trouvant chez elle avec Clarence, le baronnet voulut éclipser son rival et faire seul les frais de la conversation. Il se mit à parler de la dernière fête champêtre de Frogmore et il se plaignit de ce que l'accident arrivé à Lady de la Cour l'eût empêché d'aller y déjeuner. Lady de la Cour dit qu'elle l'avait regretté encore plus pour Miss Portman que pour elle. Belinda assura qu'elle n'en avait pas éprouvé la plus petite peine. Diable m'emporte, dit Sir Philip, je vous aurais conduit dans mon caricle. La présence de Miss Portman a seule manqué à mon triomphe. Sir Philip commença alors une très longue description de tous les plaisirs qui s'étaient succédés. Il affecta de toujours parler à Miss Portman. Lady de la Cour loua ce récit avec une ironie fine et en même temps avec tant de politesse que le baronnet, qui avait très peu de pénétration et beaucoup d'amour-propre, crut qu'elle le louait sérieusement et céda sans résistance à la demande qu'on lui fit d'imiter la danse pyrrhique. Rochefort ne put s'empêcher de se moquer de sa grotesque figure. Lady de la Cour l'imita, et Clarence Hervé et Belinda rirent aussi en se regardant. Le baronnet s'en aperçut. « Diable m'emporte, je crois que je vous amuse, » s'écria-t-il. Et il garda le silence jusqu'à ce que Clarence se fût retiré. Belinda sortit bientôt après pour aller faire de la musique. Sir Philip demanda un moment d'entretien à Lady de la Cour. Il lui dit que le respect qu'il avait pour elle et l'intérêt que lui inspirait Belinda l'engageaient à s'expliquer avec elle si elle voulait lui promettre le plus inviolable secret. Lady de la Cour le lui promit et Sir Philip lui avoua qu'il était fâché de voir M. Hervé s'occuper dans le monde de Miss Portman. C'était dangereux pour cette jeune dame, Clarence ne pouvant avoir de sérieuses intentions, puisqu'il avait un attachement qui lui était bien connu. « Serait-il marié ?» demanda Lady de la Cour. « Diable m'emporte si j'en sais quelque chose. Tout ce que je puis dire, c'est que la jeune femme est charmante et que Clarence la soigne depuis longtemps. »« Depuis longtemps ? Elle n'est donc pas fort jeune ?»« Elle a tout au plus 17 ans. » Elle m'a paru charmante, je ne l'ai vue qu'une fois à Windsor. » Alors le baronnet raconta la manière dont il l'avait découvert. « Savez-vous son nom ?»« Je crois, diable m'emporte, que le vieux Jézabel l'appelle Miss Virginie de Saint-Pierre. »« Virginie de Saint-Pierre, » reprit Lady de la Cour, « c'est un nom tout à fait romanesque. » Je vous remercie pour Miss Portman et pour moi de l'obligeance avec laquelle vous voulez défendre nos cœurs contre un sentiment qui ne serait point payé de retour. » Sir Philip la quitta alors en louant avec son jurant ordinaire la beauté de Miss Portman. Lady de la Cour répéta cette histoire à Belinda et conclut par lui dire que les vues de Sir Philip étaient aisées à pénétrer, qu'il l'admirait et conséquemment qu'il était jaloux de Clarence. « Mais pourquoi pâlissez-vous donc ? Ma chère, continua-t-elle, il me semble que rien de tout cela ne doit vous alarmer. »« Oh, nullement, répondit Belinda, je n'ai jamais regardé M. Hervé que comme une aimable connaissance. »« Vous pouvez même le regarder autrement, malgré l'histoire de Sir Philip. Clarence n'est point homme à épouser cette fille. Quand il se mariera, il l'abandonnera. C'est un sacrifice de plus qu'il vous fera. » « Mais pourquoi donc ne riez-vous pas ? Voulez-vous exiger des hommes autant de moralité que vous en avez ? Sur toute chose, n'allez pas trahir Sir Philip, Clarence ne lui pardonnerait jamais son indiscrétion. Je vous conseille de n'avoir pas l'air de vous en apercevoir et d'être toujours la même avec Monsieur Hervé. Mais je vois à la fierté de votre regard que vous aimeriez mieux mourir d'amour que de suivre mon avis. » Bélinde, sans hauteur, mais avec une douce fermeté, répondit qu'elle n'avait rien à changer à sa conduite, puisqu'elle n'avait jamais pensé à M. Hervé et qu'elle était entièrement maîtresse de son cœur. « Il est dommage, dit Lady de la Cour, que l'expression de votre figure ne dépende pas aussi de vous. Mais, malgré votre indifférence, je crois que votre estime pour M. Hervé est diminuée. Au reste, Sir Philippe m'a fait le plus charmant portrait de cette Virginie. » Vous a-t-il parlé de la couleur de ses cheveux ? Demanda Bélinde avec une voix émue. Oui, châtain très clair, mais pourquoi cet intérêt particulier ? Au grand plaisir de Bélinde, Mariette vint d'interrompre la conversation. Elle ne douta pas que la mèche de cheveux tombée ne fût de Virginie. Mais après avoir bien réfléchi, elle ne put blâmer M. Hervé, puisqu'il l'évitait avec soin et que ses visites paraissaient avoir l'aidé de la cour pour unique but. Sir Philippe espérait brouiller Bélinde avec son rival et en tirer avantage pour lui. Il fut donc extrêmement piqué de l'indifférence qu'elle lui témoigna. Rochefort se moqua de lui en l'assurant qu'il fallait que Clarence fût bien aimé, puisqu'on ne prenait pas garde à son rival. Sir Philippe jura qu'il en tirerait vengeance et qu'un homme de sa richesse et de sa tournure ne serait pas expulsé aussi aisément qu'on le croyait. Rochefort lui dit de bien réfléchir et de prendre garde à ne pas se laisser attraper. Le baronnet balança quelque temps entre la crainte d'être la dupe d'une nièce de Mistress Stanhope et l'espoir de triompher de Clarence. Enfin, ce qu'il appelait amour l'emporta sur la prudence. Il fit donc à Bélinde des propositions de mariage et prit d'avance le ton d'un amant favorisé. Il empêchait continuellement Clarence de s'approcher de Bélinde et affectait de parler bas à la jeune Miss pour donner de la jalousie à Hervé.